about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir s'ouvre donc la sixième saison de la dispute et avec elle de nouveaux changements dans l'émission, changements dont le but premier est de maintenir en éveil notre curiosité critique, la nôtre comme la vôtre, vous qui nous écoutez. Changement aussi dû au fait qu'Antoine Guillot, en charge de la revue de presse culturelle de la dispute pendant 5 saisons, animera désormais tous les samedis à 15h le nouveau magazine cinéma de France Culture, Plan Large. Pour autant, vous retrouverez Antoine chaque mardi en tant que critique de cinéma dans la dispute. Changement aussi parce qu'après 3 saisons, j'ai décidé de mettre un terme à la séquence de l'invité de la dispute pour consacrer plus de temps à nos débats critiques. Débats critiques qui se trouvent renforcés par une arrivée, celle de Lucille Como, qui je souhaite la bienvenue et qui sera présente tous les soirs à mes côtés, parfois comme critique, mais toujours pour nous ouvrir les portes du petit salon où elle officiera tous les soirs pour soumettre aux critiques un fait dans l'actualité culturelle qui mérite débat, éclairage et mise en perspective. Et ce soir, nous ouvrons la saison avec Joël Gaillot et Philippe Chevillé. À notre affiche, un retour sur le Festival d'Avignon avec plusieurs spectacles vus au festival et qu'on pourra voir en France au cours de la saison à venir. Nous évoquerons, alors le programme est copieux, on va voir si on réussira à le tenir tout entier. Nous parlerons de Karamazov, d'après les frères Karamazov, de Dostoïevski, mise en scène Jean Bellorini. Nous parlerons de l'Institut Bajamata, d'après Robert Walser, mise en scène de Bérangère Ventusso. Nous évoquerons aussi 20 novembre de Lars Noren, mise en scène Sophia Jupiter, et puis Le Radeau de la Méduse de Georges Kaiser dans une mise en scène de Thomas Joly. Et puis Toute ma vie, j'ai fait des choses que je savais pas faire de Rémi DeVos, mise en scène Christophe Rauch, Thomas Joly, une autre fois, nous en parlerons, nous verrons comment tout à l'heure avec Joël Gaillot. Et au cœur de nos disputes, donc le premier petit salon, une chose qui ne change pas, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Restez vertical d'Alain Guiraudy qui est en salle actuellement et dont nous parlerons demain soir. Et avant de nous intéresser plus précisément à quelques-uns des spectacles du Festival d'Avignon 2016, peut-être un sentiment général sur cette 70e édition. Jacques Gaillot et Philippe Chevillé, vous en avez vu un bon nombre de spectacles durant cette édition. Joël, beaucoup pour France Culture aussi. On peut retrouver aussi en ligne vos chroniques entendues cet été, en plus du off dont vous avez parlé dans l'émission qu'animait Lucille Como tout au mois de juillet, c'est-à-dire La Grande Table. Sentiment général sur cette édition?
Je suis loin d'avoir vu autant de spectacles que vous, Arnaud, puisque je suis partie quand même à mi-parcours, hein, le 16 juillet.
Donc ça donne une indication tout de même.
Ce que je veux dire, c'est que j'ai raté des poids lourds. J'ai raté Christiane Oupa, j'ai raté Serebrennikov. Enfin bon, il y a des
Je ne les mettrai pas dans la même catégorie, mais enfin, ça c'est une autre question.
Il y a des artistes que j'aurais aimé voir. Et voilà, bon, il se trouve que je suis partie le 16. Sur la première, disons, la première moitié du festival, le cru était plutôt bon. Mon sentiment général, pour tout vous dire, et quand même qu'on revient à une forme de théâtre voulu par, je crois, Olivier Pied et son équipe, qui a un théâtre assez villarien où il me semble que ce qui est surtout recherché, c'est le récit, une forme de linéarité, la quête du sens, et que la recherche formelle, comme on a pu la vivre avec des Christophe Marteller dans La Cour d'honneur, des Romeo Castellucci, voire même, et pourtant Dieu sait si ce spectacle avait fait polémique, des Frédéric Fischbach, cette recherche formelle est sans doute un petit peu laissée de côté. Donc, dans sa globalité, c'était plutôt un bon festival avec des spectacles étrangers qu'on était très heureux de voir, notamment les Syriens, dont on ne parlera pas ce soir. Mais malgré tout, on constate quand même un recul par rapport au désir d'innover du point de vue de la forme.
Très bien, Philippe Chevillier, vous aussi, vous êtes parti un peu plus qu'à mi-parcours quand même, vous.
Oui, un petit peu plus. J'ai vu le Christian Loupa, justement, j'ai vu le radeau de la Méduse. Moi, je suis pas d'accord avec Joël, enfin, je suis d'accord sur le fait que c'est plutôt une bonne édition. Et je pense que globalement, moi, ce que j'ai eu l'impression que c'était assez équilibré. D'abord, les grandes aventures étaient plutôt réussies, à part une ou deux. Et ces grandes aventures, on en parlera ici, je pense, d'autres fois, comme les damnés de 1636. Je pense que dans ces aventures-là, il y a eu quand même des choses dans la forme qui étaient très intéressantes. Et qu'on a eu un bon dosage entre justement des choses un petit peu plus extravagantes, des choses plus classiques, un bon dosage français-étranger, des valeurs sûres, des découvertes. Moyennant quoi, ce qui est vrai, c'est qu'une édition du festival, souvent, quand ça marche pas mal dans la cour d'honneur, enfin, quand il y a généralement, c'est un bon départ.
Une bonne cour d'honneur donne un bon départ au festival.
Voilà, et du coup, on est moins dans les polémiques comme les autres années, etc. Donc, on a l'esprit peut-être.
Si sûr que c'était si bien que ça dans la cour d'honneur, c'est une autre question.
Hein. Ah bah ça, on en reparlera.
On en parlera pas ce soir.
On en parlera quand ce sera l'affiche de la Comédie Française.
On se disputera hors antenne avec elle.
Je suis pas sûr que le là ait été donné par le spectacle de la cour d'honneur.
En tout cas, il était apprécié par la majorité des critiques.
Alors, et des festivaliers.
Et des festivaliers, il n'y a pas eu de polémique vraiment autour du festival, sinon qui m'ont semblé un peu exagérées. Mais ça, on ne va pas parler des damnés.
Non, pas ce soir. On en parlera quand ce sera l'affiche de la Comédie Française, à partir du 24 septembre, je crois, de mémoire.
Et ce que je voulais rajouter juste très vite, c'est que ce qui est on le constate maintenant dans presque tous les spectacles, c'est vraiment... Alors là, je rejoins Joël sur le fait qu'on parlait du monde, c'était très important visiblement pour Olivier Py, mais on voit qu'il y a une noirceur et la violence du monde a été très présente dans la plupart des spectacles que moi j'ai vus. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de spectacles un peu comme Samuel Achache l'année d'avant, où on était vraiment dans la noirceur globalement, en tout cas moi ce que j'ai vu. Voilà.
Bon, il y a eu le Roy Hook Collectif qui a mis un peu de bonne humeur sur la fin du festival, on en reparlera. Lucille Comeau, pour vous mettre un petit peu en voix, quand même avant le petit salon, vous avez fait un petit bout de festival tout de même pour France Culture et pour la Grande Table. C'était loin d'être votre premier festival. Vous l'avez ressenti comment celui-ci ?
Plutôt bien. C'est vrai qu'à l'inverse de Philippe, je trouve que la Cour d'honneur pour moi était difficile, une expérience difficile à la fois esthétiquement et puis idéologiquement, disons. Et du coup, c'est vrai que le rebond après était plutôt positif. J'ai eu tendance à trouver ça de mieux en mieux après cette première expérience.
Bon, voilà. Pour un sentiment général, on ouvre véritablement cette émission de la saison avec un spectacle que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ont pu voir. Alors, à Avignon, mais aussi sur Arte. Toujours en ligne sur Culture Box, Karamazov, d'après le roman de Dostoïevski, mise en scène Jean Bellorini, un défi qui était évidemment important pour le patron du TGP, le théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qui était installé à la Carrière Boulbon, un lieu très imposant, très important du Festival d'Avignon. Défi d'adapter ce roman phare de la littérature mondiale qui brasse beaucoup de très grandes questions existentielles. Pour information, on verra ici même dans deux semaines comment le metteur en scène allemand Frank Castorf, l'un des derniers vieux maîtres du théâtre européen, s'y est pris, puisqu'il va présenter sa vision des frères Karamazov en ouverture de la saison de la MC93 de Bobigny. Pour l'heure, c'est donc en VF que nous découvrons cet extrait.
Il avait été marié deux fois et avait eu trois fils. L'aîné, Dmitri Fyodorovitch, de sa première épouse, et les deux autres, Ivan et Alexei, de la seconde. On imagine, bien sûr, l'éducateur et le père que pouvait être un homme pareil. En tant que père, il lui était arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire que dès qu'il fut veuf, il avait tout bonnement et complètement laissé tomber son enfant.
Pourquoi il ne me parle plus ? Pourquoi il ne m'approche plus ? Pourquoi il ne veut plus venir me voir ? Est-ce que vous le retenez ? On sait bien que c'est premier nous le veut. Moi, c'est malpoli que je l'invite. C'est lui, le premier, qui devrait se souvenir, s'il n'a pas oublié. Non, maintenant, il fait son salut.
Soudain, le starret se leva de sa place, complètement perdu.
Pardonnez ! Pardonnez tous !
Pourquoi il s'agenouille devant lui ? C'est un Anglais ? Pourquoi ? Alyosha ! Aujourd'hui même, tu t'installes chez moi. Déménage ! Ton oreiller, ton matelas disparaît d'ici, tiens ! Corps et âme !
Alors apprends-le. Maintenant, je suis un petit voleur. Je suis un voleur à la tire. Je suis un pickpocket. Juste avant que j'aille chez Groschenka, Katerina Ivanovna, qui me convoque chez elle, et sous le sceau du secret le plus terrible, elle me demande d'aller envoyer 3000 roubles à sa sœur à Moscou. Et c'est avec ces 3000 roubles que je me suis retrouvé chez Groschenka et que nous sommes partis à Mokroïe.
Mais Mitya, tu es malheureux, oui, mais pas autant que tu l'imagines. Ne te tue pas avec ton désespoir. Ne te tue pas.
Lorsque tu crois que je vais me brûler la cervelle et que je n'arriverai pas à trouver 3000 roubles à lui rendre, c'est justement ça le problème.
Voilà. Tout petit extrait pour un spectacle d'une durée assez importante. Philippe Chevrier, vos sentiments sur Karamazov, qui a eu un accueil, on va dire, plutôt frais du côté des festivaliers et singulièrement de la critique, même s'il y a eu quelques papiers de défense dans de grands journaux nationaux. Comment avez-vous vécu, vous, ce bout de nuit dans la carrière Boulbon ?
Alors moi, j'ai trouvé que ce spectacle était raté. Si je parlais des grandes aventures, et ben il y en a eu des réussies. Pour moi, celle-là est ratée. Alors moi, j'aime bien Bellorini. J'aime bien la façon qu'il a d'instiller de la légèreté dans des œuvres parfois de Brecht ou de donner un petit peu voix à la fantaisie de la chanson. Donc moi, je suis plutôt un amateur de Bellorini. Et là, et en plus, j'étais assez fasciné de voir comment il arrivait quand même à prendre des textes comme des textes de Victor Hugo,
Rabelais.
Ou de Rabelais. Et là, d'abord, c'est l'adaptation. Alors on va pas faire un exégèse du roman, surtout souvent les gens l'ont lu il y a très longtemps, et c'est pas ça le problème. C'est que quand on est au théâtre et qu'on sent tout d'un coup qu'on se dit ça passe pas vraiment la scène. Et alors moi j'ai trouvé que l'adaptation était une juxtaposition un peu de scènes, que les monologues étaient trop longs. Bien sûr il faut des monologues avec Dostoïevski, mais c'est juste que c'est un peu trop long, que certaines scènes aussi d'action étaient un peu trop longues, d'autres trop courtes. Donc l'adaptation déjà m'a pas plu. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait une grande faiblesse au niveau de la direction d'acteurs et que j'ai eu du mal à vraiment sauver certains acteurs. Alors, j'ai bien aimé Jean-Christophe Folly qui fait Dimitri, qui fait le frère passionné d'amour et le voyou, le prince voyou. Celui-là, j'ai trouvé que c'était assez réussi. J'ai François de Bloch qui fait Alyosha, le mystique. J'ai trouvé qu'il avait au moins un personnage qui était bien dessiné.
Je l'ai beaucoup aimé, moi. François de Bloch.
Et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec Geoffrey Rondeau qui joue Yvan le philosophe, et j'ai trouvé que c'était un peu, qu'il en faisait des tonnes, que c'était un peu Sarah Bernhardt. Et ça, je pense que c'est de la faute de Bellorini qui a pas su les diriger, les maîtriser. Et puis par ailleurs, la mise en scène où il y a quand même beaucoup d'images, de belles images. Souvent là, j'en ai vu très peu. Donc c'est un décor, une espèce de datcha qui ressemble un peu à une gare avec une drésine qui fait avancer, reculer dans tous les sens les comédiens. Il y a une ou deux belles images, mais j'ai trouvé que c'était un peu. On a l'impression que ils ont été dévorés par le texte et que d'arriver à faire tenir ensemble toute la passion et toute la philosophie, la mystique de cette œuvre les a tellement occupés qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser, et que dans tous les secteurs où d'habitude ils arrivent à s'en sortir, ils ont un peu, bon, pour moi c'est vraiment raté.
Alors je signale à mi-parcours de ce moment critique que Karamazov va connaître une très très grande tournée, hein. C'est pour ça aussi qu'on en parle ce soir. À partir du mois de novembre, ça commencera au Théâtre de Carouge à Genève, ce sera à Marseille, ensuite pendant 10 jours à Tremblay en France, à Vire, à Caen, à Saint-Denis, donc le lieu dirigé par Jean Bellorini, du 5 au 29 janvier, puis Bayonne, Nice, Brive, Créteil, Châtenay-Malabry, La Roche-sur-Yon, Amiens, Toulouse, Lyon, Montpellier, Sète, Compiègne, Clermont-Ferrand, à la Comédie bien sûr, Quimper, Théâtre de Cornouailles. Les dates pour la saison prochaine, c'est pour dire que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent un peu partout en France peuvent se sentir concernés par ce que va dire maintenant Joël Gayot.
Mais je trouve que Philippe est assez dur quand même, parce que
c'est rare,
et il faut le souligner. Moi non, je vous trouve dur Philippe, parce que je pense qu'effectivement il y a des spectacles ratés et il y a des spectacles qui ont dératé, et que ces ratés sont aussi conjoncturels, et qu'en l'occurrence effectivement Karamazov, tel qu'on l'a vu dans la carrière Boulbon, et on imagine la pression que c'est de jouer dans la carrière Boulbon qui réouvrait pour l'occasion.
C'est quand même aussi un immense honneur. Hein.
Non, mais c'est à la fois un honneur et en même temps une pression, et on peut pas soustraire complètement les acteurs le soir de la première à cette pression. Je pense que ces ratés sont uniquement des affaires d'ajustement, et que ces ajustements ils sont tout à fait réalisables. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été réalisés au fur et à mesure que le spectacle se déroulait là-bas. Il me semble que oui, vous avez raison. Il y a quelque chose qui a un peu dévoré les acteurs. Je dirais plus, moi, que les comédiens avaient tendance à cavaler, on l'a un peu entendu d'ailleurs, à cavaler dans les mots, comme s'ils couraient après la phrase d'après en permanence. Ce qui pose le problème de la contradiction aussi, qui consiste à mettre en scène une adaptation d'un texte pareil, enfin d'un récit pareil, où il est question de la croyance en Dieu, où il est question de la famille, où il est question de la tentation du mal, de l'aspiration au bien, enfin des questions vertigineuses, des questions existentielles, des questions métaphysiques, toutes sortes de questions qui appelleraient des temps pour le spectateur de réflexion, voire même un peu de méditation. Et tout ça ne nous était pas offert et autorisé à la carrière Bourbon. Mais je pense vraiment que c'est juste une question de détail, de calage, qu'il faut que les comédiens se calment et qu'ils prennent ce temps-là, qu'ils introduisent un peu du silence. C'est bien les silences parfois dans des longs monologues. Et curieusement, ces très longs monologues, que moi aussi j'ai pu percevoir comme trop longs, ne sont pas si longs que ça. J'ai re-regardé le spectacle qui est en ligne sur Culture Box. Et en fait, des monologues qu'on a appréhendés comme des monologues de 30 minutes durent 7 minutes. Donc c'est aussi un état dans lequel on est quand on est là-bas. Je trouve que Jean Bellorini a fait preuve d'une ambition artistique dont moi je lui suis vraiment reconnaissante. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé là-bas avec un spectacle confortable qui aurait duré 2 heures, un texte facile qui aurait été simple à mettre en scène. Il s'est coltiné Dostoïevski et il faut y aller. Il s'est coltiné 5h30 de spectacle. Il fallait oser. Il est gourmand, il est vorace. Ça, c'est très bien. C'est le signe de quelqu'un qui a envie de se mettre des défis, qui a envie de se dépasser et d'amener aussi le spectateur et ses acteurs à se dépasser eux-mêmes. Et je trouve qu'il faut, il faut le dire parce que ce n'est pas toujours le cas. J'aime bien cette voracité de Bellorini, ce désir, comme d'ailleurs Julien Gosselin dans un autre registre, de franchir les montagnes réellement. Bon, il y avait des petits écueils, mais c'est pas si grave. Dans l'ensemble, l'élan était là, la compréhension du texte, je pense, était là aussi. Vous avez souligné la qualité de Jean-Christophe Folli, je vous rejoins complètement. Je trouve que Geoffroy Rondeau dans le rôle d'Ivan et notamment dans ce monologue du grand inquisiteur qui a inspiré d'ailleurs...
Non, c'est François de Bloch qui joue Ivan. Hein. Geoffroy Rondeau qui joue Alyosha.
Ah, pardon, excusez-moi, alors j'ai inversé. En tout cas, celui qui joue le rôle du grand inquisiteur...
Oui, François de Bloch.
Qui a inspiré à Bellorini le désir de mettre en scène...
Ah non, pardon, c'est moi qui dis une bêtise.
C'est ça, hein, c'est bien Geoffroy Rondeau qui joue Ivan. Hein. Non, il n'y a pas de problème.
Je me suis perdu dans mes notes.
Ça m'arrive assez souvent, Arnaud, ouais. Pour que franchement, je ne vous en veuille pas. C'est plutôt moi d'habitude qui... Enfin bref, je trouve qu'il est habité à ce moment-là.
Moi, j'ai trouvé absolument formidable, ne l'ayant vu qu'à la télévision.
Réellement.
Je ne peux pas rien dire de la condition de spectateur que vous décrivez, Joël, mais pour le coup, c'est bien Geoffroy Rondeau, je l'ai trouvé absolument formidable. Et ça ne dure pas 7 minutes, hein, le grand inquisiteur et le monologue. Ça dure bien 40, 30 ou 30 minutes.
25 minutes, oui.
Une trentaine, je n'ai pas non plus absolument regardé la montre.
C'est magnifique.
Mais alors, pour le coup, François de Bloch, Alyosha, m'a paru extrêmement faible. Mais c'est à l'image un peu du spectacle dans sa globalité. Moi, je trouve que ça alterne le bon, voire très bon par moment, comme c'est effectivement ce passage-là, avec des choses qui m'ont paru vraiment complètement ratées, complètement à côté. Tout d'un coup, l'arrivée de cette chanson d'Adamo, Tombe la neige, qui est vraiment... on peut se faire plaisir en mettant des chansons. On reparlera du sujet dans un instant. Mais il y a des choses comme ça qui tombaient complètement à plat, ou des jeux très hystérisés... homme-femme, je précise ici, qui était problématique. J'ai bien aimé le dispositif scénique de Jean Bellorini, puisque c'est lui
les
qui signe aussi la
costumes
de Masha Makieff. Alors effectivement, à la télévision, encore une fois, je précise que je ne l'ai vu que par ce biais-là pour l'instant, il y avait de très belles images, pour reprendre un peu le terme que vous employez tout à l'heure, Philippe Chevillier. Et ces draisines, ce décor mouvant, ça a amené une certaine fluidité. Alors c'est peut-être aussi la magie de la réalisation télévisuelle pour le coup, et on vit pas la même chose dans les gradins. Mais pour moi, vous parliez de la qualité de l'adaptation, Joël Gaillot. Moi, alors j'ai bien compris qu'on voyait ça par le prisme plutôt d'Alyosha, ou en s'en concentrant en tout cas sur ce personnage. Est-ce que ça fait une lecture sur une œuvre pareille? Je suis pas tout à fait persuadé. Moi, je suis quand même resté sur ma faim concernant les enjeux, alors immenses, mais que je trouve assez peu mis en lumière ou problématisés.
Moi, où je suis d'accord
Philippe
avec... je pense que le spectacle, il peut être modifié, mais beaucoup plus profondément que cela. C'est-à-dire, je pense qu'il doit vraiment être retravaillé beaucoup pour arriver à quelque chose de vraiment réussi. Quand je dis raté, c'est pas dire qu'un spectacle est fondamentalement mauvais ou d'avoir une critique, c'est qu'on a raté quelque chose. Et encore une fois, moi je suis désolé, sur la direction d'acteur, ça part dans tous les sens. Et moi je crois que Geoffrey Rondeau, c'est un très bon comédien, mais qu'à un moment donné il faut un peu le retenir, parce que en plus on parle du monologue, mais dans la dernière partie, c'est quand je disais Sarah Bernhardt, franchement, hein, moi, le soir où je l'ai vu, j'étais vraiment surpris, parce que justement on n'a pas l'habitude de voir ça chez Bellorini. Et encore une fois, je regarde ça parce que j'ai quand même l'impression qu'il arrive qui d'habitude il arrive à maîtriser, à faire une matière qui est la sienne. Or là, j'ai l'impression qu'il nous présente un petit peu le spectacle de façon, une juxtaposition de scènes.
Joël Gaillot, dernier mot.
Je la trouve assez judicieuse, l'adaptation, dans le sens où, en fait, chaque héros masculin de cette vaste fresque, parce que ce sont quand même essentiellement les hommes qui sont au devant sur cette scène, chaque héros masculin est porteur d'une posture de vie. Et ça, il le fait très bien entendre. Et c'est pour ça aussi que Alyosha, François de Bloch, dans le rôle d'Alyosha, il est au fond le révélateur et celui qui vient aider les autres à accoucher d'eux-mêmes. Après, je crois aussi que ce qui me frappe, c'est que ce que fait aussi Jean Bellorini en nous mettant face à 5h30 d'un flux de parole, d'un flux de pensée, d'une parole qui ne cesse de chercher sa pensée aussi, c'est aussi de nous mettre nous-mêmes spectateurs face à notre capacité ou sans doute aussi notre incapacité à absorber la pensée quand elle déferle, quand elle se déploie, quand elle s'expose sans aucune économie dans un monde où aujourd'hui la pensée on l'énonce sur 140 signes d'un fil Twitter. Je trouve que c'est intéressant que tout à coup bien quelqu'un impose le flux et prenne le temps de la générosité, de la prolixité et que voilà,
Joël disait qu'il fallait des silences et de la méditation.
Le silence et le flux, c'est pas du tout antinomique. On peut avoir des flux, de temps en temps introduire des silences. Et le silence n'est pas se taire. Le silence, c'est autre chose. Le silence, c'est baisser d'un ton. C'est peut-être ralentir un petit peu. C'est la décélération qui manque à ce spectacle. C'est peut-être plus la décélération que le silence. Mais le silence et le flux, ça n'est absolument pas des choses à opposer.
Mais justement, moi, je trouve qu'on devrait avoir quelque chose d'organique, de fluide et de quelque chose qui nous entraîne effectivement dans une espèce de pensée mystique, subversive. Et en fait, je trouve que c'est plutôt un récit qui nous est fait très très rapide, où on a l'impression encore une fois que ça n'a pas fusionné. Voilà, moi, j'ai cette impression-là. Et encore une fois, je pense d'abord, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il allait vraiment resserrer tout ça. Donc, on ira voir. Quand on pourra le revoir notamment à Saint-Denis, et peut-être qu'il aura trouvé la recette miracle à ce moment-là.
Qu'il l'a déjà trouvé. Je crois que c'est un spectacle qui s'est considérablement amélioré à l'épreuve des spectateurs.
On se fera une nouvelle idée, peut-être d'un spectacle très différent. En tout cas, il reprend au mois de novembre, donc il a le temps effectivement d'y travailler peut-être. Jean Bellorini, il passera en effet à Saint-Denis du 5 au 29 janvier prochain, mais donc beaucoup de dates d'ici là que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Quelques mots, Philippe Chevillier, je vais vous bousculer un petit peu pour rester dans les metteurs en scène trentenaires. Quelques mots sur le radeau de la Méduse, d'après Georg Kaiser, les scènes de Thomas Joly, votre chouchou.
Allons-y, mon chouchou. Alors, le radeau de la Méduse, c'est un spectacle d'élèves. Donc, Thomas Joly explique que ça fait 13 ans, il avait travaillé ça, je crois, lui, de ce côté, 13 ans qu'il voulait faire ce texte, mettre en scène ce texte de Georg Kaiser, qui est une pièce très étrange, puisqu'elle raconte l'histoire de... C'est un conte funèbre de garçons et de filles qui se retrouvent dans un bateau pendant la guerre. Le bateau est coulé par des avions et ils se retrouvent sur un bateau, ils doivent survivre. Et on va voir qu'il y a 6 garçons, 6 filles et un autre personnage et qu'ils vont en fait tomber dans une espèce... Ils vont reproduire les schémas des adultes, que ça va être assez terrible. Moi, ce qui m'a beaucoup plu...
C'est exact qu'on verra en fin de saison à l'Odéon, à Paris.
Et ce spectacle, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir que ce dont je suis persuadé, qu'il y a chez Thomas Joly une capacité à varier ses mises en scène, puisque là, on pouvait s'attendre, on aurait pu avoir un radeau de la Méduse tonitruant avec du rock'n'roll derrière, et des éclairages qui tournent dans tous les sens. Pas du tout. Là, on est dans une atmosphère beaucoup plus sereine et nocturne, presque funèbre, sur une mer avec une barque qui tourne, des éclairages expressionniste, une certaine poésie, les chants, c'est plutôt des chants de marins ou des cantiques. Ces jeunes comédiens, ils les dirigent, moi je trouve assez bien, parce qu'ils leur fait jouer dans un jeu un peu mi-lyrique, mi-distancé. C'est un spectacle étrange, qui n'est pas un immense spectacle, mais qui est un joli spectacle, et plus qu'un spectacle d'élèves, et qui montre qu'il en a vraiment sous le pied au niveau de l'imagination, de la créativité. Et encore une fois, c'est un magnifique faiseur d'images. Voilà.
Le radeau de la Méduse sera présenté d'abord au TNS à Strasbourg, du 1er au 11 juin 2017, il faudra être un peu patient, et puis à l'Odéon à Paris du 16 au 30 juin de la même saison.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de l'Institut Benjamata, d'après Robert Walser, mise en scène de Bérangère Ventusso, de 20 novembre. Sophia Jupiter, Lars Noren, si on a le temps, et je l'espère. Avant cela, il est temps pour la première fois d'ouvrir les portes du petit salon de Lucille Comeau. Bonsoir, chère Lucille, nous vous écoutons.
Bonsoir Arnaud, on va parler technique un peu, puisque la plupart des spectateurs, qu'ils soient critiques ou pas, à Avignon cet été, n'ont pas manqué de remarquer la très grande présence, pour ne pas dire omniprésence, de la vidéo dans les mises en scène proposées par le IN. Cette année, les damnés dans la cour d'honneur, de 1666, on va en parler je pense, et Tristesse, entre autres. En réalité, je ne pense pas que ce soit une observation très fructueuse d'un point de vue théorique, parce que ces spectacles sont très différents, et n'utilisent pas du tout la vidéo de la même manière, ni aux mêmes fins. Dans le cas des damnés d'Ivo Vonhomme, on voit vraiment le dispositif sur scène. Il y a des caméramans qui sont hyper présents. Il y a quelque chose de très assumé dans cette utilisation-là. L'image filmée gêne, à mon avis, l'appréhension de ce qui se passe sur scène, ce qui d'ailleurs probablement est le but d'Ivo Vonhomme, qui biaise ainsi son propre rapport au film de Visconti. Dans 2666, pour prendre un autre exemple, la vidéo est utilisée au premier degré. Elle est pour le spectateur un vrai moyen d'immersion dans la narration et notamment un soutien des très longs monologues, parce que là, pour le coup, ils sont longs, qui constituent une grande partie du roman et donc du spectacle. Bref, la vidéo partout, certes, mais employée de manière tellement différente qu'on ne peut pas, je pense, en dire grand-chose de général. En revanche, moins commentée et peut-être plus intéressante est l'omniprésence de la sonorisation des voix. Très peu de spectacles sans micro, même dans des petits espaces clos où elle n'est pas vraiment nécessaire d'un point de vue technique, comme dans la cour du lycée Saint-Joseph où sont donnés ces fameux sujets à vif qui sont des petites formes qui sont données devant une jauge très réduite. Alors il y a 2666, l'Institut Benjamata, on va en parler aussi. Karamazov, on entendait un extrait, c'est assez clair, des micros partout. Et là, à mon avis, ça change quelque chose de fondamental dans le rapport qu'entretiennent les spectateurs à la scène, même si c'est moins spectaculaire que la vidéo. Les comédiens peuvent chuchoter, les comédiens peuvent clamer pendant des heures sans s'épuiser la voix. On entend toujours tout, même dans la cour d'honneur ou à la carrière Boulbon, qui sont des lieux difficiles où parfois on était habitué à entendre moins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Je me souviens de spectacles où la fragilité vocale était très belle et faisait même partie de l'émotion du spectacle. Et surtout, ça change quelque chose au jeu et à ce que veut dire la performance théâtrale. Le micro signe la fin des voix projetées, de la déclamation. L'emphase et le débit s'en trouvent modifiés, ressemblant à ce qui se fait au cinéma. Par exemple, c'est pas du tout négatif dans ma bouche. On se rapproche, par exemple, de ce que fait le théâtre allemand. Quelque chose de plus fluide, de plus simple, peut-être à l'écoute. Bref, peut-être une sorte d'aplanissement ou d'internationalisation du jeu dans un rapport à la mise en scène profondément modifié.
Merci Lucille pour cette introduction, cette entrée dans le petit salon. C'est intéressant de se souvenir, vous évoquiez, Joël, les polémiques passées aussi, théâtre d'image contre théâtre de texte, toutes les années Hortense Archambault, Vincent de Baudrier. C'est aussi une façon de repartir sur le sujet que nous propose Lucille Comeau ce soir. L'utilisation de la vidéo, c'est vrai, est très différente selon les spectacles.
Oui, Lucille a raison. Il faudrait pouvoir détailler spectacle par spectacle l'usage de la vidéo et sa nécessité aussi, parce que parfois elle ne l'est pas.
Ou son absence de nécessité.
Ou son absence de nécessité, c'est plus exactement dit. Il me semble que la vidéo est entrée dans Avignon. Elle fait partie complètement des usages avignonnais et ça date depuis assez longtemps. D'ailleurs, au début, elle a choqué pas mal. Comme a choqué le surtitrage, hein, les spectacles étrangers surtitrés recevaient à chaque fois une salve de papier disant mais comment ça on peut pas à la fois voir un spectacle et lire les surtitres. Donc la vidéo a pu gêner. Moi je trouve que la vidéo c'est une écriture, ça devrait être une écriture.
Ça l'est parfois,
ça ne l'est pas tout le temps. Comme on n'est pas là pour faire la critique de 2666 ou des
années. Non mais on peut s'en servir ce soir, bien sûr, de l'un et de l'autre.
Je pense que effectivement dans le cas du spectacle de Julien Gosselin, c'est une écriture, ce n'est pas juste une illustration, ce n'est pas juste quelque chose qui lui permet de faire passer du monologue. C'est un autre média, un autre médium dont il se sert pour approfondir un champ, pour entrer dans une intériorité et ainsi de suite. Par exemple, le spectacle Tristesse d'Anne-Cécile Van Dalhem recourt à un usage de la vidéo qui est tout à fait judicieux puisqu'elle ne sont filmées que les scènes qui se passent à l'intérieur des bâtiments qui sont sur le plateau. Là, c'est intéressant parce que là, il y a quelque chose avec la vidéo qui se passe qui est un peu inédit.
Intérieur,
qui est un peu
extérieur,
différent.
Vraiment.
Après, bon, il y a pas mal d'autres spectacles où la vidéo est là. Est-ce que c'est un supplément d'âme, un petit confort,
une béquille,
une béquille pour pallier
une béquille et un outil esthétique. C'est-à-dire que dans 2666, on sent clairement que la vidéo et les micros, parce que j'insiste un peu, sont quand même des outils techniques pour tenir aussi la longueur et pour permettre à ces acteurs qui sont peu nombreux de jouer aussi longtemps.
Mais là, c'est l'utilisation d'un outil, quand je disais béquille, c'est comme les tournettes. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
une esthétique très particulière. Oui. Les deux peuvent tout à fait.
Quand je parle de béquille, c'est au sens cache-misère. Quand un metteur en scène n'a pas d'idée, on va faire une vidéo. Évidemment, il va se passer quelque chose. On va amener une émotion qui n'existerait pas sans ça. Là, c'est pour ça que je voulais parler de béquille, ce qui est pas le cas, à mon avis, de Julien Gosselin. Philippe Chevillier.
Oui. Alors, il y a aussi une dimension économique, parce que d'une certaine façon, il y a des gens qui se sont dit, bon, les décors lourds, on va remplacer par de la vidéo. Enfin, tous ces éléments.
On l'a vu même à la Comédie Française, il n'y a pas si longtemps, trois murs vidéo qui faisaient des corps. Je ne sais plus, c'est le spectacle de Gérard de Sarthe, me semble-t-il. Ou non, pas Gérard de Sarthe, un autre. Mais voilà, ça rentrait partout.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est vrai, il y a toujours un petit peu de retard et il y a eu des polémiques sur l'utilisation de la vidéo. Alors après, on peut ne pas aimer un spectacle et dire que c'est à cause de la vidéo. C'est vrai que ça date de, quand même, de très longtemps. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu un spectacle où je me suis dit, tiens, la vidéo est bien maîtrisée, c'était Braunschweig en 1999, La Flûte Enchantée à Aix, où je m'étais dit, tiens, ça fonctionne, ça marche, et c'était plus seulement un gadget. Alors, après, c'est devenu un accessoire, et après, c'est devenu un élément de décor. Et maintenant, je pense qu'on arrive, parce que pour des raisons techniques, à maîtriser tout ça plutôt très bien. Et moi, j'ai trouvé justement qu'à Avignon, pour moi, le problème ne s'est pas posé. Après, on peut avoir encore une fois des discussions esthétiques, mais dans les spectacles où je l'ai vu, aussi bien les derniers que 2068, la vidéo m'a paru évidente parce qu'elle faisait partie intégrante de la mise en scène, parce qu'on pouvait jouer à la fois du gros plan, de ce qu'on pouvait voir en live comme sentiment qu'on pouvait voir en gros plan, du passé, parce qu'il y a des scènes enregistrées. Donc moi, ça m'a paru assez évident. Moyennant quoi, c'est aussi, faut savoir que c'est aussi des metteurs en scène qui n'utilisent pas forcément, qui ne sont pas hystériques de la vidéo. La preuve, c'est que Van Hove a...
Vu du pont,
il n'y en a pas. Et Marie Stuart, il n'y en avait pas, trop
non
plus.
Je crois pas.
Et dans les particules élémentaires, non plus.
Et dans les particules élémentaires, c'est exactement ça. Il y avait quelques images placardées.
C'est du graphisme.
Donc, c'est pas tout d'un coup... En plus, c'est pas du tout des metteurs en scène qui, tout d'un coup, se pâment devant la vidéo. Donc, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas non plus que ça devienne un gadget, évidemment, ou... une façon de faire de l'effet.
L'utilisation, parfois, quel est le mot pour pas froisser, j'allais dire feignante, mais une certaine paresse, en tout cas. Chez quelqu'un que j'aime beaucoup, Christophe Varikovsky, par exemple, sur certains de ses derniers spectacles, il y avait parfois des moments de vidéo qui étaient... Voilà, des facilités qui m'ont étonné chez lui.
Mais en fait, bon, il faut quand même rendre, je crois, à César ce qui est à César. Je vais au théâtre depuis les années 90. Celui qui a quand même amené la vidéo en faisant un instrument au service de la dramaturgie, et on va bientôt voir un spectacle de lui, c'est Franck Castorf. Castorf a utilisé la vidéo de manière dynamique, de manière énergique, comme jamais on avait vu utiliser la vidéo avant lui, et après, il n'y a eu finalement que des épigones de Castorf, et c'est très bien, ça a été décliné, ça a été repris. Moi, j'attends toujours que quelqu'un utilise la vidéo encore d'une autre façon. Je l'ai vu une fois cette année dans un spectacle d'Arthur Noziciel qu'il a présenté au CDN d'Orléans. C'était son dernier spectacle avant la fin de la saison 2015-2016. Mais sinon, ça fait longtemps que la vidéo ne m'a pas surprise dans son usage.
L'usage des performances filmées de Cyril Test, qui fait un film en même temps qu'il fait une mise en scène de théâtre.
Et là, on entre dans autre chose, c'est-à-dire que même Cyril Test, il ne parle pas de mise en scène de théâtre. Il parle de performance filmique. Donc, on entre dans une ambiguïté, un trouble qui est voulu par lui et qui est son label, qui est effectivement le trouble entre cinéma et théâtre et qui place le spectateur dans une position qui
très
est
étrange, parce qu'il y a les
double,
deux. On voit les deux. On peut regarder les deux.
On peut regarder les deux. On peut choisir de ne regarder qu'un plan, le théâtre ou la vidéo. En tout cas, il assigne le spectateur à une place qui est à la fois confortable et totalement inconfortable.
Oui, c'est ça qui m'intéresse.
C'est ça qui est génial.
Et moi, j'ai eu l'expérience aussi avec Jatahi, que moi les trois sœurs.
Christiane Jatahi.
Où ayant vu
Alors, il faut expliquer à les trois sœurs, donc très remanié, avec le public invité à rentrer soit dans la salle de théâtre pour commencer, soit dans la salle de cinéma, et on change à la mi-temps, mais on rejoue le même spectacle.
Le même spectacle.
Mais on le voit une fois avec les comédiennes. c'était que des femmes, me semble-t-il. Non, il y avait des hommes aussi, oui. En chair et en os, si je puis dire. Et l'autre, dans l'autre salle, on le voit sur écran.
Et ce qui est intéressant, c'est que vu, si l'on voit que l'un des deux, ça, on se dit c'est vraiment insatisfaisant. Et ça ne prend du sens que quand on a vu les deux. Donc là, c'est un mariage théâtre-vidéo-cinéma qui est vraiment, en plus avec les gens, les acteurs qui viennent saluer à la fin des deux côtés, donc ils traversent l'écran. Moi, c'est un moment qui m'a beaucoup... On n'a pas beaucoup parlé du...
Non, mais justement, ce que je suis en train de me dire, Lucille Como, c'est que...
Et c'est ça qui m'intéressait.
Voilà. Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dans votre lancement, c'était pas simplement... c'était pas tellement la vidéo qui était intéressante, c'était le son. Mais de fait, ça vous fera un sujet pour un avenir.
Exactement.
Non, parce que sur la vidéo aussi, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre. Vous avez beaucoup aimé 2666, par exemple. On en reparlera ensemble dans quelques semaines, ici même, avec une utilisation très... très riche et très différente au sein du même spectacle. Bon, il faut dire qu'il y a la durée qui le permet, mais la vidéo a à peu près tous les usages avec Julien Gosselin. Me semblait.
Mais on peut dire un mot de la sonorisation ou pas
On le garde pour une autre fois, non, parce qu'on a un programme riche. Il est 21h36.
C'est intéressant.
Dans quelques secondes,
Lucie, on a encore.
Non, mais absolument. Mais c'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'est bien, on va le garder pour un autre lundi, parce qu'on a l'Institut Badajamata, on a 20 novembre. On aimerait dire quelques mots de certaines passilles télévisuelles. J'aimerais évoquer un spectacle dans le off. Donc, nous allons sortir du petit salon. Et poursuivre cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant avec un retour donc sur quelques-uns des spectacles présentés au Festival d'Avignon au mois de juillet. C'était donc le cas de l'Institut Benjamin Tade après Robert Walser dans une mise en scène de Bérangère Ventusso. Comme beaucoup de lecteurs, moi, j'ai une passion pour Walser et pour ce roman. Dans la traduction de Marthe Robert, le livre et le spectacle s'ouvrent ainsi. Nous apprenons très peu ici. On manque de personnel enseignant et nous autres garçons de l'Institut Benjamin Tade, nous n'arriverons à rien. C'est-à-dire que nous serons plus tard des gens très humbles et subalternes. Ceci est dit non comme une plainte, hein, mais comme un reproche, mais comme une sorte d'idéal pour ce garçon qui va observer de l'intérieur le système jusqu'à son effondrement.
La seule chose que je sais, c'est que je serai plus tard un beau zéro. Un ravissant zéro tourne.
Est-ce que cette chambre te plaît ?
Elle est petite. Chez moi, j'avais des rideaux aux fenêtres et le soleil entrait dans la chambre. Ici, il n'y a qu'un lit étroit et une toilette. Oh, mais pardonnez-moi de le prendre sur ce ton et de faire des comparaisons avec ma maison et Dieu sait quoi encore. Je trouve la chambre très charmante.
Entrez!
Bonjour, monsieur le directeur.
Parle plus haut, crétin.
Bonjour, monsieur le directeur.
Plus haut.
Bonjour, monsieur le directeur.
Plus haut.
Bonjour, monsieur le directeur.
Recommence. Recommence. Entrez!
Bonjour, monsieur le directeur.
Qu'est-ce que tu veux?
On n'apprend absolument rien ici. Et je ne veux pas rester.
Il n'a pas compris qu'il fallait rester pour ne rien apprendre. C'est pourtant ce qu'on lui a expliqué au début. Joël Gaillot, l'Institut Benjamin Tade.
Mais je suis sortie de là assez déprimée, je dois dire.
Oui, c'est déprimant.
Le fait est que le texte de Robert Walser n'incite pas forcément à aller faire des claquettes après.
Pas vraiment.
C'est étrange d'ailleurs. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de 20 novembre de Sophia Jupiter, mais on se dit que ce jeune Jacob qui intègre l'Institut pour y faire cette expérience de l'humiliation, voire même de la dépersonnalisation, aurait pu devenir un tueur en série qui prend une carabine et qui va tuer tous ses camarades d'école. Bon, ce n'est pas ce qu'il fait puisqu'il adopte complètement cette démarche qui effectivement n'est pas nihiliste mais qui est réellement déprimante Bérangère Ventusso traite sur ce mode-là. Alors c'est peut-être un coup de génie total finalement que d'arriver à contaminer complètement le spectateur avec cette sensation d'un peu de lourdeur ou d'être englué dans le zéro, dans le rien. Peut-être que finalement c'est le signe que sa mise en scène est très réussie. Mais j'avoue que moi j'ai eu un sentiment de fadeur, d'atonie. C'était dû aux mannequins qui étaient tous les mêmes. C'était volontaire à part les cheveux des mannequins qui changent. Tous les mannequins sont modelés et découpés sur le même moule. Je sais pas, il y a quelque chose dans le décor aussi, dans ce bois qui n'a pas de relief, qui n'a pas de reflet, qui m'a attristé, pour tout dire.
Bon.
Ça m'a attristé.
Philippe Chevillier. Bah,
Joël a l'air un peu dégoûté, mais
triste. Non, la tristesse, c'est pas le dégoût.
Moi, j'étais mitigé sur ce spectacle. Alors moi, je suis plutôt très bien parti dans ce spectacle. J'ai beaucoup aimé justement l'esthétique. J'ai trouvé ça effectivement assez déprimant, mais l'absence de décor, ce rapport ambigu à la marionnette, ces marionnettes qui sont un petit peu qui sont plus petites que les hommes et qui surgissent de boîtes, un peu comme des cercueils. Ça, il y a un côté vraiment enfermement
mais
dans cette institut.
Elles sont plus petites parce qu'elles n'ont pas de jambes aussi.
Tout ça crée une atmosphère et j'ai trouvé que ça crée une atmosphère qui était assez proche de l'idée que je pouvais me faire justement de cette mélancolie noire de Walser. Et donc, j'étais plutôt très bien au départ. Il y a des scènes que j'ai aimées, comme la mort de la sœur du directeur. Il y a des moments comme ça assez magiques. Et puis, à la longue, j'ai trouvé que c'était trop formel et que, justement, la partie un peu rebelle, un peu explosive, implosive du propos de Walser se dissolvait un peu dans cette boîte un peu infernale et très belle et en même temps très triste. Donc, je suis sorti du spectacle. Voilà.
Bon, bah écoutez, moi
Et j'ai pas fait de claquette en sortant non plus.
Moi, j'y suis entré et resté tout du long. Alors, moi, c'était un de mes grands plaisirs pendant ce festival d'Avignon parce que Bérangère Ventusso, elle m'a dit qu'elle ne fait pas des spectacles de marionnettes, mais des spectacles avec des marionnettes. Et je trouve que c'est on ne peut plus vrai ici parce que, et puis dans la mesure où, et c'est particulièrement bienvenu dans la mesure où il y a une forme de parallèle qui m'a semblé très, très juste entre le domestique et le binôme marionnette-comédien, entre la figure du serviteur et de son identité propre. C'est quand même aussi un des sujets. C'est-à-dire, il faut savoir s'effacer et être complètement lisse comme le décor devant les maîtres à venir et que du coup les identités se délitent, se fragmentent à tel point d'ailleurs que chaque comédien va avoir beaucoup de plus en plus d'identité et de silhouette. Il va y avoir comme une invasion de marionnettes, des doubles, des triples, des quadruples, et c'est aussi, il me semble, un trouble qu'on peut avoir à la lecture du livre de Walser, c'est la mise en cause de la réalité de ce qui nous est raconté. Ça pourrait être un long rêve, un cauchemar plutôt. Et en même temps, je trouve qu'il y avait aussi énormément d'humour dans ce spectacle. Moi, j'aime immensément Pierre-Yves Chapalin qui joue le directeur, Monsieur Benjamin. Et puis toutes ces scènes de répétition, de formules de politesse qui montrent quand même l'absurdité, comment on peut vider le langage d'absolument toute sa vérité. Donc voilà, moi, il y a quand même énormément d'éléments qui m'ont touché, et même cette scénographie qui vous a semblé assez vide, de Marguerite Borda, j'ai trouvé sobre, ce qui n'est pas la même chose évidemment, et je trouve qu'elle amenait beaucoup de fluidité dans les déplacements, dans les séquences de jeu, enfin il y avait un travail chorégraphique. Pour le coup, il y a quelques très belles images, dont une que je ne dévoilerai pas vers la fin du spectacle, et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'elles sont d'autant plus belles que Bérangère Ventusso n'insiste pas sur ces images, elles passent, et je trouve que c'est quand même aussi là une qualité à noter. Certains pourraient s'apesantir quand ils font une belle image, c'est pas vraiment son cas. Mais alors, est-ce que c'est parce que j'aime trop Robert Walser, Lucille Gomeau, parce qu'on en parlait avant l'émission, vous qui ne connaissiez pas ce livre-là,
moi,
vous êtes resté à l'extérieur.
Aussi, mais parce que ça m'a laissé vraiment perplexe. J'avais vraiment l'impression d'être dans un cours, genre une leçon de philo, un truc sur Hegel, sur la dialectique du maître et de l'esclave, et je comprenais pas. Donc je suis restée extrêmement perplexe, et du coup, ça paraissait extrêmement long et plat.
Bon. Mais en fait, c'est un peu, pardon Arnaud, c'est juste, il me semble que c'est un peu l'apprentissage de la disparition de soi. C'est David Le Breton, qui d'ailleurs se réfère beaucoup à le sociologue et anthropologue, qui se réfère beaucoup à Robert Walser, a écrit un livre magnifique sur ça, Disparaître de soi, une tentation contemporaine. Et peut-être qu'il y a des moments où, quand on va voir un spectacle, surtout à Avignon, on n'a pas du tout envie de disparaître de soi. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être génial, finalement.
C'est bien.
Parce que finalement, elle nous y amène vers cette impulsion qu'on
aurait
tous au fond de nous-mêmes, de la disparition de soi. Ce que Walser met en œuvre, effectivement, dans ses textes et dans son œuvre.
Donc, c'est la meilleure critique du spectacle de Bérangère Ventusso, faite par Joël Gayot. Lui aussi a une belle tournée, Strasbourg, au théâtre Jeune Public, du 22 et 23 novembre, c'est très bientôt. Puis ce sera à Tours, au théâtre Olympia, à Épinal, la Seine des Vosges, au théâtre de Sartrouville, à Draguignan, à Nevers, au mois de décembre. À Lille, au Théâtre du Nord du du 1er au 9 février. Ce sera Thionville en mars, Clamart au mois de mars également 2017. L'émission avance, mais nous avons du temps, vous voyez, Joël Gaillot, pour dire quelques mots d'un spectacle alors qu'on ne verra pas cette saison en France, mais je mettrai quelques pièces sur le fait qu'on le verra 20 novembre, et pas seulement celui-ci. Spectacle mis en scène par Sophia Jupiter, on le verra sans doute dans des théâtres en France. C'est un texte de Lars Noren. Sophia Jupiter, il faut rappeler qu'elle présentait deux mises en scène à Avignon cette année, qu'elle n'était pas présente pour cause d'heureux événements, cette metteur en scène. Mais quand même, elle nous a envoyé ses comédiens et ses mises en scène. 20 novembre, Philippe Chevillier.
Un spectacle qui correspond vraiment à ce que je disais tout à l'heure de la noirceur du festival et de la terreur que l'on connaît dans le monde, puisqu'il s'agit d'un texte qui raconte la tuerie de Sébastien de Bosse à Emstetten, en Westphalie, en Allemagne. Donc on est en 2006 et depuis de 10 ans, en 10 ans, ce sont des situations qu'on a vues coutumières, et c'est terrible de revoir donc un adolescent de lycéen qui va faire un massacre
et le film sa vidéo de confession avant d'aller perpétrer
voilà,
son forfait.
Lars Noren a donc, c'est beaucoup documenté, donc c'est vraiment c'est hyper réaliste, et je trouve que le travail qu'a fait Jupiter de rester finalement dans une forme d'hyper réalisme, mais avec quand même la distance qu'il faut, jamais dans le pathos, de nous montrer ce jeune homme dans cette application minutieuse qu'il a à faire une mise en scène avec son masque à gaz, son sac à dos, avec ces moments où on sent qu'il bascule un petit peu dans le regret, où il tomberait presque dans la sensiblerie, puis redevient. Il est jamais monstrueux. On éprouve une sorte à la fois de terreur et d'empathie, et je pense que ça repose aussi beaucoup sur cette, d'ailleurs elle le dit elle-même, hein, sur ce comédien assez formidable qui s'appelle Fukamachi Rainforce, si je le prononce bien, et qui est,
on vous contredira pas,
et qui est aussi assez incroyable d'ailleurs, parce que moi j'ai vu Tiger, l'autre qui est plutôt sur le mode de la comédie ironique avec plein de personnages, et qui joue le rôle d'ailleurs d'un moineau par exemple puisque c'est une fable animalière. Et là, je trouve qu'il arrive à tenir ce texte qui est quand même d'une lourdeur et d'une violence, et à nous rendre la chose tout à fait à la fois émouvante et terrible jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et moi, j'étais quand même assez frappé par cette lecture très simple et très juste d'un texte impossible.
Joël Gaillot, sur 20 novembre.
Alors, sans faire le moindre amalgame, il faut quand même dire que ce spectacle a été présenté aux alentours du 13, 14, 15 juillet.
Absolument.
Donc, moi, je l'ai vu avant le 14 juillet, c'est-à-dire avant les attentats de Nice. Et il faut aussi ajouter qu'à la fin de la représentation, c'est à la fois dans le texte et c'est mis en scène par Sophia Jupiter, ce jeune homme, Sébastien Bosse, qui s'apprête à aller tuer ses camarades à la sortie du lycée ou de la faculté, se tourne vers les spectateurs et leur dit « Avez-vous quelque chose à me dire ? Je m'en vais, je vais passer à l'acte. Quelqu'un a-t-il quelque chose à me dire ?» Et dans la salle, des gens ont répondu « On t'aime, reste avec nous.
Ouais. »
Le lendemain du 14 juillet, cette phrase revenait en tête et avec un effet boomerang assez particulier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois le temps d'écriture de Lars Noren qui s'est beaucoup inspiré du blog et des vidéos laissées par ce meurtrier, et puis il y a le temps de la représentation. Et que, comme souvent au théâtre, le temps de la représentation vient percuter le réel, ou plutôt le réel vient percuter le temps de la représentation. Et que Sophia Jupiter, en provoquant cette fin de spectacle, qui est aussi dans le texte, je crois, met le spectateur à une place intenable, parce que on ne peut plus se dérober. Alors, dans le texte de Lars Noren, il n'y a aucune compassion pour cet individu, il n'y a aucun jugement. Moi, j'ai été stupéfaite de la pauvreté des arguments de ce jeune homme, c'est-à-dire qu'en fait c'est ridicule ce qui le conduit à passer à l'acte. C'est un sentiment de rejet comme on vit tous les adolescents, de vexation, d'humiliation, mais comme tous les adolescents peuvent passer à un moment ou à un autre par là, et c'est ces petites choses qui vont le conduire au massacre. Et à la fin, nous se tourner vers nous et nous dire alors tout repose entre vos mains maintenant. Alors on est à l'arène, on lève le doigt vers le haut, ce garçon épargnera suivra ses futures victimes, où on l'abaisse vers le bas et il part et il commet la tuerie. C'est très compliqué. Et je repensais à ça parce que il y a eu pendant cet été une polémique lancée par Le Monde. Faut-il ou pas montrer le visage des meurtriers et faut-il donner leur identité? Et Radio France a publié un communiqué de la Société des journalistes disant oui, nous montrerons leur visage parce que la barbarie a visage humain. Et il n'est pas question de faire croire qu'elle ne l'a pas. Et la barbarie, c'est pas juste une photographie. La barbarie, ce sont aussi des paroles. Et ce qui me revient, ce qui me reste de ce spectacle, c'est ça. C'est qu'on a vu la barbarie et qu'elle a un visage humain. Mmh. Ça prend une heure, ça s'appelle 20 novembre, c'est mis en scène par Sophia Jupiter et c'est pas rien.
Ouais, moi j'avais vraiment des réserves sur cette fin interactive,
on va
dire.
Ah mais moi aussi Arnaud, j'en ai.
Mais qui a donné selon les jours, hein, parce que je me suis renseigné, des résultats plus ou moins heureux. Je pense que le moins heureux, si je puis dire, effectivement, on t'aime, reste avec nous, et que le garçon pose son sac, il ne semble pas partir, ce qui est quand même très très problématique, mais on avait vu aussi Milo Rao, hein, qui avait mis en scène la plaidoirie d'Anders Breivik à son procès. Et, moi, j'ai vu jouer par... C'est une femme qui dit ce texte-là. Là, c'est vraiment voilà, celui qui a donc tué à Utøya ses 60... quelques jeunes gens norvégiens. Et là, c'était tout aussi glaçant. Cette fin-là, voilà.
On marche sur des œufs. Hein.
Pose vraiment question. Oui. Mais ce spectacle, j'espère quand même qu'on sera amené à en reparler parce que je pense que c'est important aussi de le voir et d'entendre cela. Et je pense que Tigerne fera sans doute partie du lot, Philippe.
Oui, parce que c'est un spectacle. D'abord, la pièce est assez étonnante. Et puis, il y a encore une fois, il y a une façon très directe, très cash, je trouve, de ce Flèche-Bitter d'aborder les textes et sans se poser vraiment de questions et de donner de l'humanité avec tout ce que ça peut avoir d'ambigu à ces personnages.
On en reste là pour Sophia Jupiter et 20 novembre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
On va conclure cette émission par deux coups de cœur. L'un dans le off d'Avignon, ce sera pour moi dans un instant. L'un qui concerne Avignon, mais de façon plus extérieure. Peut-être qu'avant, Lucille Gomeau, si on faisait le jeu de la dispute, parce que quand même vous êtes là et vous allez chaque soir avec moi donner à nos heureuses auditrices et auditeurs la possibilité de gagner de beaux cadeaux ce soir. Ce sont des invitations pour le film Rester vertical d'Alain Guiraudy, actuellement au cinéma, dont on parlera demain soir. Vous avez la question, Lucine ?
Une question sur son précédent film. L'affiche du précédent film d'Alain Guiraudy, L'inconnu du lac, représentant en arrière-plan deux hommes enlacés, avait choqué deux municipalités qui l'avaient fait retirer de leur panneau public. Quelles étaient ces deux villes ?
Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales sont à envoyer encore et toujours par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Coup de cœur, donc, pour finir, Joël Gaillot, on y revient, Thomas Joly.
Oui, Thomas Joly, parce que Thomas Joly a fait cet été quelque chose que je trouve absolument admirable et qui, je pensais à ça en réfléchissant à ce que Lucille nous soumettait comme sujet, la sonorisation, la vidéo, ça m'a amené à repenser à qu'est-ce que c'est que la modernité. Je pense que la modernité, je suis arrivée à l'avenir ou au futur, et que Thomas Joly, cet été, a proposé quelque chose qui pourrait être le futur ou l'avenir du festival. Il a fait à la fois un feuilleton tous les jours à Avignon, qui s'appelait Le ciel, la nuit, la pierre glorieuse, où il retraçait l'histoire du festival. J'ai vu un épisode, c'était bien fait, mais c'est pas ce que j'ai préféré dans le festival. Par contre, alors
c'est bien, on a parlé de la dispute, le jour où c'était sur les critiques. Donc c'est bien, je voulais écrire à Thomas Joly, mais j'ai pas son adresse, s'il veut m'envoyer un mail.
Tous les soirs à la télévision sur France 2 et tous les matins, je crois, sur France 5, et on peut tout revoir en replay sur Culture Box. Il a fait des petites chroniques qui retraçaient elles aussi l'histoire du festival, mais de manière thématique. Alors les critiques, les auteurs, les autres, les intermittents, Jean Villard, les acteurs, les actrices, les spectateurs, les spectatrices, et ainsi de suite. Des petits clips de 2 minutes qui sont extraordinaires, qui sont très clairs, qui sont très bien écrits par Damien Gabriac et qui donnaient vraiment envie, je le pense, à tous les gens qui n'étaient pas à Avignon de se précipiter à Avignon. Et si ça ne leur donnait pas envie, en tout cas, ça désacralisait ce festival qui peut paraître très lointain et très élitiste à certains, et brassant beaucoup de l'entre-soi, tout à coup, grâce à Thomas Joly et cette irruption dans la petite lucarne, eh bien, Avignon entrait dans la vie des gens et je trouve que c'est formidable. J'espère que ça sera refait l'année prochaine et que ce sera ce même Thomas Joly qui s'y collera. Parce qu'il l'a fait avec beaucoup de brio.
Ouais, il est très demandé. Vous savez, on va en parler de lui dans 2 semaines parce qu'il fait sa première mise en scène d'opéra à l'Opéra de Paris. Il aurait dû commencer par l'Opéra Comique, mais l'Opéra de Paris l'a rattrapé par la manche après l'Opéra Comique, mais il passe avant. Bon, ça c'est les petites histoires et les coulisses du monde du spectacle. Vous avez vu ces petits clips, Philippe Cheville?
Oui, j'en ai vu un ou deux, et puis j'ai vu un petit épisode de la Piccola Familia, là, qui était pas mal. Voilà. Je vais pas parler de Thomas Joly toutes les 5 minutes.
Ouais, bah si, vous aimez tellement ça. Enfin, je voudrais pas vous gâcher votre plaisir. J'ai regardé sur Culture Box, n'en ayant pas encore vu. Moi, je voulais juste évoquer pour les dernières minutes de cette dispute l'un des grands succès bien mérités du Off d'Avignon. Toute ma vie, j'ai fait des choses que je savais pas faire. Un texte de Rémi DeVos dans une mise en scène de Christophe Roque avec Juliette Plumecoq-Mèche, un texte écrit par l'auteur sur une commande du metteur en scène. Pour cette actrice, dire si le trio de cette création est essentiel. Et le résultat est en effet, là encore, à couper le souffle, littéralement, puisque pendant un peu moins d'une heure, 50 minutes, on va remonter le fil des dernières minutes de la vie d'un homme, victime de l'homophobie, on comprendra un peu plus tard, mort sous les coups d'un autre homme, croisé dans un bistrot. C'est un spectacle qui débute, donc on entre dans la salle, il y a un cadavre au sol, vous savez, avec les marques autour, hein, le cadavre qu'on trouve dans la rue, un cadavre qui va commencer à chuchoter, prendre la parole et raconter cette scène banale, absurde, qui lui a coûté la vie. Le personnage, quand même, fait quelques pas de côté pour raconter des éléments biographiques, intimes. Une écriture de Rémi DeVos à son meilleur, c'est-à-dire très, très précise, très, très juste. Mais il faut dire que c'est quand même surtout le jeu de Juliette Plumecoq-Mèche qui sidère les spectateurs et auditeurs impuissants que nous sommes face à ce récit qui est quand même tout à fait terrible, encore une fois, par son absurdité qui conduit à la mort. C'est une mise en scène qui est sombre, très précise. Là encore, c'est un beau travail de Christophe Roque. On en reparlera, je l'espère, parce que beaucoup de programmateurs ont vu ce spectacle cet été à Avignon. Donc, sans doute, ce sera voilà pour la saison 17-18. Pour l'heure, il est programmé, ce qui est assez logique, au Théâtre du Nord. Ce sera pour la clôture de la saison à Lille du 7 au 24 juin. Ce spectacle qui s'appelle donc « Toute ma vie, j'ai fait des choses que je savais pas faire ». Texte de Rémi DeVos, mise en scène Christophe Roque, et puis Juliette Plumecoq-Mèche. Vous l'aviez vu, Joël Gaillot, ce spectacle?
Non, je ne l'ai pas vu.
Vous avez entendu parler,
donc
vous avez l'air d'opiner, donc je voulais avoir votre avis.
Non, parce que j'ai croisé beaucoup de gens qui effectivement étaient de votre avis et qui me disaient qu'il fallait y aller.
J'ai regretté de ne pas le voir, j'ai vu d'autres
off, mais pas celui-ci, et je le regrette.
Il faudra y aller, mais je ne manquerai pas de vous le rappeler de toute façon. Et ainsi s'achève la première dispute de cette sixième saison. Merci à vous, Joël Gaillot, Lucille Comeau, Philippe Chevillier, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Bien sûr, la dispute est possible grâce à Lucille Comeau, Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault, qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir de façon toujours remarquable par Jean Frédérics. Réalisation remarquable, elle encore, de Daniel Finot. On se donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma, en compagnie de Charles Garçon, Lucille Comeau, Antoine Guillot et Thierry Chaise. À notre affiche, Tony Erdmann de Marraine A2, Restez vertical d'Alain Guiraudy et Nocturama de Bertrand Bonello. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Notez bien un nouveau rendez-vous, les discussions du soir, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.